Lui aussi, comme dimanche passé, je vous parlais de Jean-Baptiste, sa vie, c'est son message. Eh bien, lui aussi, sa vie, ben, c'est un livre, et puis sa vie, c'est son message aussi, qu'il nous laisse aujourd'hui. Et on va plonger dans le livre de Job. Job, vous avez peut-être entendu parler d'expression populaire, pauvre comme Job. Ce qui est vrai et pas tout à fait vrai quand même, quand on lit la fin de ce chapitre, de ce livre de Job. Alors Job, il est entre guillemets mal placé dans nos Bibles. Nos Bibles ne sont pas chronologiques si vous avez une Bible second habituelle. C'est un peu plus logique dans la version dite français courant. Mais comme nos Bibles ne sont pas chronologiques, voilà, le livre de Job se trouve Esther, Job, Psaume, juste avant les psaumes. Et puis les psaumes, bah, c'est à peu près au milieu. Vous retrouvez un petit peu avant et vous tombez sur Job. Qui contient, qui le sait, je viens de le dire. Non. Combien de chapitres il y a dans les livres de Job? 42, exactement. 6 fois 7, 42. 42 chapitres, c'est bien, facile à retenir. Maintenant, vous saurez combien, ceux qui ne le savaient pas, il y a de chapitres. Alors, ce livre est très intéressant parce qu'il est probablement le plus ancien qui a été écrit de nos Bibles. Et l'histoire se passe à une époque probablement avant les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Donc ça remonte dans le temps, il y a longtemps. Hein. Là encore, c'était sans loi de Moïse. Moïse n'était pas né. Et voilà, on est dans un temps en fait où il y a dans la vie de Job une crainte de Dieu, un respect de Dieu, mais tout n'est pas codifié. On ne sait pas comment on va à la maison de l'Éternel, il n'y en a pas. On ne sait pas comment on rencontre Dieu, autre que par expérience où Dieu se révèle. Voilà. Mais il y a un homme qui se trouve donc dans le pays d'Outz, c'est le verset premier, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà, il craignait Dieu. On plante le décor dans ce livre de Job. Ce livre appartient à la littérature de la sagesse. Dans les livres de la sagesse, il y a, et poétique, il y a les psaumes, etc., ce psaume, proverbe. Voilà, il y a les mots sagesse dans ces livres-là reviennent souvent. Et l'importance du respect de Dieu, de la crainte de Dieu, ça revient souvent. Et donc ça émane dans ce livre, le respect de Dieu, la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez les derniers messages que j'ai pu partager, ou ce que Stéphane aussi a pu partager dans les derniers dimanches. On a vu différents personnages. Vous vous rappelez, si je vous pose la question? Comment? Allez, oui. Carole, elle va tricher, elle a une super mémoire, alors elle va tout nous sortir. Comment, hein? Oui, j'ai entendu. Léa? Voilà, il y a eu Léa. Voilà, on a vu Léa, comment Dieu l'a rencontrée dans sa souffrance. L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, et tout est parti de là, après la bénédiction. Quelqu'un d'autre se rappelle les messages? Non? Pas encore, mais... Oui, Manassé, le roi Manassé, qui a été partagé la vie par Stéphane Ostetler. La crapule, comme il l'appelle, mais Dieu a aimé cette crapule, comme moi, comme nous, tous. Et puis dimanche passé, je vous ai parlé aussi de Jean-Baptiste. Avant, j'en avais parlé de Corneille, de sa famille. Lui, Corneille, c'est génial parce que, en fait, il est mûr, le fruit est mûr. Voilà, il est prêt, il craint Dieu, il respecte Dieu, sa maison aussi, sa famille aussi. Et Pierre a juste à donner un bout d'évangile et ça suffit pour que l'Esprit de Dieu tombe parce que les cœurs sont prêts, la repentance a été au préalable. Je vous rappelle que pour vivre une vraie conversion, une vraie nouvelle naissance ou profonde, authentique, on est tous différents par rapport à ça, mais il y a quand même des dénominateurs communs qui sont là. C'est la clé de la repentance, c'est la clé de la foi en Dieu, parce que la repentance sans la foi, voilà, ça ne va pas. C'est la foi en Dieu pour notre salut, la mort et la résurrection de Jésus. C'est aussi le baptême d'eau et c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Ces quatre choses-là se retrouvent dans les actes des apôtres à chaque fois, voilà, suite aux prédications qui sont données par les apôtres. Alors, visons ces quatre choses. Notre repentance a-t-elle été bâclée? Alors, ça ne va pas, il faut l'approfondir. Il y a des hommes et des femmes qui mettent longtemps à vivre ces quatre périodes, mais mieux c'est, enfin plus c'est concentré, mieux c'est, plus c'est rapproché, on va dire, mieux c'est. Mais peu importe, il faut vivre ces étapes-là et elles sont importantes. Repentance, foi en Dieu, on vit par la foi, On vit notre salut, c'est parce que Jésus est venu nous sauver et on a la confiance. Le baptême d'eau, j'en parlais dimanche passé, je vous invite à réécouter ce message. Baptême par immersion et puis le baptême du Saint-Esprit, l'expérience, on va dire, la plus marquante dans le sens de... qui peut être extraverti, ça dépend peut-être des fois des personnes, mais ce baptême du Saint-Esprit, pour certains, ils ont parlé des langues nouvelles, d'autres ont prophétisé, ont chanté les louanges de Dieu, mais l'expression, voilà, ça a débordé et ça s'est manifesté. Ces choses-là sont un processus, on demeure là-dedans, on ne dit pas « je me suis converti il y a 30 et quelques années et c'était bon », mais on demeure, hein, c'est un processus de croissance parce qu'une fois, le Saint-Esprit peut nous montrer quelque chose qui est là encore dans nos vies, une pierre d'achoppement à renoncer, etc. Alors, le livre de Job, il est vraiment très intéressant. Je le trouve passionnant. C'est 42 chapitres. C'est un petit peu comme ça, dans un survol, une pièce de théâtre. Vous avez le décor qui est planté, et puis le personnage principal, c'est Job, on l'a dit, il lui arrive des malheurs, coup sur coup, et puis après, il y a des amis qui vont le rencontrer, qui vont le consoler à leur manière, et après, Dieu va parler, il est là, il affirme son autorité, et il y a une délivrance à la fin dans le chapitre final. Et c'est fantastique de voir ce livre. Vous l'avez certains déjà lu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, voilà un petit survol. En introduction, en pensant au livre de Job, je me souviens ce que dit le proverbe 10, verset 6, il est dit « Les justes attirent sur eux le bonheur ». Les justes, si tu es juste, tu attires à toi le bonheur. Ah, oh, je suis tellement béni, je suis tellement heureux, c'est formidable. Ben oui, ben parce que tu es juste, tu es rendu juste. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'était pas mon cas pendant des années. J'avais l'impression d'attirer, je ne sais pas quoi, mais pas le bonheur. Mais Dieu a pu intervenir dans sa grâce. Les justes attirent sur eux le bonheur, et ce n'est pas le cas dans un premier temps de Job. Ce n'est pas du tout son cas. On a l'impression que le malheur, il l'attire. Ce livre de Job, donc, écrit de la sagesse, on voit que Job a une épouse et son épouse va le lâcher, au bout d'un moment. Job a 7 fils et 3 filles, c'est dans le verset 2. Et à l'époque, c'est considéré comme bénédiction. Hein. Dans le monde actuel, on n'entend pas toujours ça. Hein. Oui, mes fils, ben moi je peux le dire, mes fils, filles sont des bénédictions. Amen, point final. Famille de Job. Job est un homme d'affaires, il possède de grands biens. En tout cas, comme on dit parfois, il a de l'or dans les mains. On rencontre des businessmen dans cette vie, tout ce qu'ils font, on a l'impression que ça roule. Formidable. Hein, Job est comme ça. Et en plus, il aime profondément Dieu. Comme le dit le texte biblique, il craint Dieu, il le respecte, il l'intègre. Et la conséquence d'aimer Dieu, c'est qu'il se détourne du mal. Il se détourne du mal. Voilà un Job qui est fameux. Et dans les derniers chapitres de ce livre, Job raconte, avant que Dieu intervienne, il raconte ce qui se passe dans sa vie et combien il est honoré et il honore les autres. Combien les pauvres vont vers lui pour un conseil, pour être certainement béni matériellement. Comment il est honoré quand il siège au gouvernement de sa ville. Voilà, on lui fait un siège, il est honoré, il y a un trône pour lui, il est vraiment apprécié. C'est un homme qui bénit, qui fait du bien, il n'a pas seulement des fortunes, il n'a pas seulement de grands troupeaux, mais il a vraiment une notoriété et une autorité. Et puis, donc patatras, tout va s'écrouler. On va voir ça un petit peu plus tard. Dans les richesses, la Bible nous liste ces richesses. Alors, bien sûr, il y a sa famille, mais il a aussi des bœufs. Les bœufs, donc c'est pour travailler la terre, ça veut dire qu'il a des terrains qui sont fertiles. Il a aussi des ânesses, et à l'époque, les ânesses, eh bien, c'est pas seulement pour amuser les enfants, mais c'est parce que c'est le véhicule des princes. Les princes sont portés par des ânes ou des ânesses. Jésus lui-même, vous vous rappelez, à Jérusalem, il entre comme un roi, porté par une ânesse, par un ânon, pardon. Et puis forcément, s'il y a des bœufs, des ânesses, il y a aussi des brebis, il y a aussi des chameaux. Et les chameaux, ben, c'est tout le commerce. Hein, les caravanes qui transportent à l'époque, le commerce, voilà, le business, tout est florissant chez Job. Il a forcément aussi beaucoup d'ouvriers, ouvriers agricoles. Voilà, il faut du monde pour s'occuper de tout ça. Et lui gère ses affaires. Le texte biblique nous montre aussi que sa crainte de Dieu, elle va jusqu'à couvrir ses enfants. Ses enfants, la deuxième génération, profitent de la fortune du père. Et ils se font des fêtes à tour de rôle. Ils s'invitent les uns les autres. À toi, à moi, ils font des fêtes. Ils roulent les mécaniques, certainement. Dans leur belle maison, les uns et les autres, ils profitent de la vie. C'est peut-être les fêtes sans limite. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Mais ça festoie de tous les côtés. Fils et filles, le texte biblique nous dit. Fils et filles. Chacun dans leur maison. Voilà, Job est vraiment béni. Comment ça va continuer? Ben, comme dans tout drame, hein, je vous ai dit, c'est un peu une pièce de théâtre. Là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Hein. Une pièce de théâtre, ça ne veut pas dire que c'est farfelu, pas du tout. Hein. Pour moi, je crois que c'est vrai. Et l'apôtre Jacques rend témoignage de la vérité de ce livre. Eh bien, voilà, patatras, il y a un drame, un nœud dramatique, le premier nœud dramatique qui arrive. Et je ne vous dis pas le... Derrière la scène, ce qui se passe, le livre le montre, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a des drames successifs, quatre drames. Les bœufs, les ânesses, les ouvriers qui s'occupent d'eux. 1, verset 14, il y a une razzia qui arrive là. Les bœufs et les ânes sont volés et les ouvriers sont tués. Deuxième drame, la foudre tombe sur les brebis. Les ouvriers agricoles avec sont tués. Deuxième drame, c'est un serviteur à chaque fois qui rapporte ces drames. Troisième drame, presque coup sur coup, les Chaldéens arrivent et ils volent tous les chameaux. 1, verset 17. Donc plus de commerce, hein. C'est Covid avant l'heure, tout est bloqué, tout est détruit. Et puis quatrième drame qui arrive dans la vie de Job, justement, l'aîné fait une fête, ça festoie. Fils et filles, tous sont là, les familles aussi. 1, verset 19, il y a une tempête qui arrive, un vent violent. La maison s'écroule sur eux, personne ne réchappe. Coup sur coup, imaginez-vous Job dans quel état il peut être, ou la famille de Job, ou sa maison, comme on disait à l'époque, la maison de Job. Dans les drames, ça ne s'arrête pas là. Des fois, on a envie de dire, mais arrête, stop, stop, stop. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième phase, eh bien, c'est carrément la santé de Job qui est atteinte. Il nous est dit que Satan envoie un ulcère purulent, des pieds sur tout le corps, des pieds à la tête. Il y a une description assez dramatique et triste, la misère humaine de Job qui l'atteint, c'est qu'il est obligé de se gratter avec un tesson. Il n'a plus rien pour se soigner, les médecins ne viennent plus, il est tout seul, solitaire, dans son malheur, et il n'a plus qu'un tesson de bouteille pour se gratter ses plaies. Ça devait être horrible, quelque chose de pénible, terrible. Alors on va afficher les versets 20 et 21 parce qu'on va voir la réaction de Job suite à ses malheurs. Job 1, 20 et 21. Job se leva alors, après la série de premiers drames, déchira son manteau, se rasa la tête, donc en signe de deuil, il se jette par terre et se prosterne, et 21, et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout ça, il arrive à reconnaître Dieu, pas comment on réagirait nous, mais il arrive à quand même lever les yeux vers Dieu après cette première série de drames, la perte de ses fils et de ses filles, la perte des chameaux, la perte des brebis, la perte des bœufs et des ânesses, et à dire que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il reconnaît Dieu, hein. Il aurait pu dire, bon, j'arrête tout, mes bondieuseries ne me servent à rien, j'arrête tout. Ça ne s'arrête pas là, il va encore bénir Dieu. Au chapitre 2, verset 10, donc à chaque fois des séries de drames, il y a des phrases conclusives. Chapitre 2, verset 10. Job lui répondit, tu tiens un langage, il parle à sa femme, oui, voilà. Sa femme l'invite à maudire Dieu, tu tiens un langage d'une folle, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Waouh, quel homme intègre, hein. Il a mis sur sa bouche une fermeture pour dire non, je ne veux pas maudire Dieu dans tout ce qui m'arrive. Je souffre. C'est terrible dans ma santé, je souffre, mais ce que ma bouche, je t'interdis bouche de parler et de maudire Dieu. Eh bien, quel courage, quelle maîtrise de soi, quelle autorité sur son propre corps. Hein. Là, il y a une discipline exemplaire qui est chez Job. C'est un homme de bien, nous dit la Bible, un homme intègre. Poursuivons cette méditation. Alors arrivent trois amis, on les appelle les amis de Job, arrivent trois amis pour le réconforter, nous dit le texte. Ils se mettent d'accord, on ne peut pas laisser Job comme ça, on va le réconforter. Ils arrivent chez lui et pendant une semaine, ils se taisent, ils ne disent rien. Ils voient la misère de Job, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les oreilles, ils sont là et ils s'assiedent à côté. J'ai vu ça en Afrique une fois quand il y avait un deuil. Voilà, les gens vont sous l'arbre, un grand arbre, là, il y avait beaucoup de monde, c'était à l'ombre heureusement, c'était en pleine chaleur. Et les gens là s'assoient et viennent saluer la famille discrètement. On ne fait pas des grands palabres à ce moment-là, mais on vient là et on s'assoit, on partage le deuil de la famille éprouvée. Alors ça m'a rappelé ce texte-là, ces trois amis qui arrivent en silence et dans le livre après va commencer une série de dialogues, une série plutôt où chacun à tour de rôle va s'exprimer. Chacun s'exprime, parfois c'est un chapitre, parfois c'est deux chapitres, parfois Job c'est des courtes incursions à un endroit ou à un autre. Alors les trois amis, ils seront quatre au chapitre 32, il y a Eliphaz, Bildad, Tsophar, Eliou. Eliou, c'est le plus jeune, il arrive à partir du chapitre 33. Eliphaz, eh bien, comment conseiller Job, se dit-il? Comment le réconforter? Je ne sais pas ce que vous diriez. Vous allez voir votre meilleur ami, tout est par terre dans la maison est écroulée, il n'y a plus rien, il est dehors sur sa terrasse. Alors Eliphaz, il essaye de trouver les mots, mais dans son discours, il y a quelque chose qui bouillonne, qui l'énerve en voyant Job, et il devient méprisant. Parfois, nous, on peut être des amis de Job, mépriser quelqu'un qui souffre. Ça, c'est vu. En tout cas, Eliphaz, il tombe là-dedans. Il fait des reproches que j'appelle un peu style croix. Jésus sur la croix, dans Matthieu chapitre 26, versets 42 et 43, il reçoit des reproches. Il est encore en vie, en train d'agoniser, mais encore en vie. Et puis les gens lui disent, mais il a sauvé tellement de gens. Il n'a qu'à sauver les autres maintenant, qu'il se sauve lui-même. Pardon, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il ne savait pas qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Il aurait pu, bien sûr, Jésus, appeler les anges qui auraient retiré les clous, instantanément guéri son corps. Pas de problème, ce n'était pas un problème de puissance manquante. Il aurait pu le faire, mais il fallait qu'il meure. Alors, sur la croix, les Eliphaz sont là, au pied de la croix, et ils méprisent. Eliphaz méprise Job, reproche, yaka. Hein, vous vous rappelez ça, à l'époque on parlait beaucoup des yaka faucons, des gens qui disent yaka, il faucon. Voilà. Eliphaz, il est là-dedans, il méprise, il est un peu méprisant sur les bords, il fait des reproches. Bildad, lui, c'est pas méprisant, mais il accuse. Dans son discours, petit à petit, sort l'accusation. Alors c'est l'accusateur, c'est l'avocat général dans le tribunal. Vous avez l'avocat qui défend, qui représente l'autorité. Et l'avocat, l'accusateur général, l'avocat général. Alors lui, il fait des reproches, vous savez sur quoi? Ce qu'il touche le plus, la chair de sa chair, ses fils. Si tes fils ont péché, 8 verset 4, c'est normal qu'ils soient morts. Attention aux conclusions rapides. Si tel et tel malheur t'arrive, si ta santé est défaillante, c'est que, vous voyez, c'est que. Cette pensée bien pensante est loin quand même de l'évangile de Jésus-Christ, où Jésus-Christ est venu pour sauver, pour guérir. 8, verset 4. Voyez, si tes fils ont péché, c'est normal qu'ils soient morts. Attention à ce que nous disons, attention aux raccourcis, nous ne sommes pas Dieu. Ça, c'était Bildad. Tsophar, alors lui, dans le procès, parce que c'est quand même une cour qui est là, qui est dressée avec ses amis de Job, lui, c'est le juge. Je le vois bien croiser les bras. Voyez, quand on croise les bras, c'est mauvais signe. Et qu'on fronce les sourcils, pas seulement croiser les bras, mais il faut froncer les sourcils. Alors lui, c'est le juge. Il arrive au verdict et lui dit, je le dis avec mes mots, 11 verset 13, il faut t'éloigner de l'injustice, Job. Si tu es dans cet état-là, il faut t'éloigner de l'injustice. Tu as dû faire des trucs injustes. Alors que Job est quand même sans reproche. Il est nickel dans sa justice. Il essaye d'être intègre au maximum. Et il l'est. Alors voilà un tsophar qui se met à juger. On a donc le méprisant, l'accusateur, le juge. Et puis le petit dernier, c'est le plus jeune, il s'est retenu de parler pendant longtemps. Il dit au début, pendant presque tout un chapitre, « Ouh, ça bouillonne en moi. Lui, je l'appelle le colérique. Le colérique, vous savez, c'est la jeunesse. Hein. C'est normal que les jeunes s'expriment. Il faut mieux. Hein, en général, quand on était jeune, je dis j'étais, on a un peu milité pour certains trucs, certains parmi nous plus que d'autres. Alors lui, c'est le militant, mais il a une parole quand même de sagesse. Il n'est pas loin de ce qui est juste. Il n'est pas loin de ce qui est juste. Hein. La jeunesse, c'est bien. La Bible, elle dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors les jeunes, c'est bien que vous soyez là. On ne vous méprise pas, on vous aime. Parlez, n'hésitez pas. Alors lui, Elio, il dit une chose, en fait, c'est un petit peu subtil chez lui, parce qu'il n'est pas très loin de la pensée de Dieu, mais il n'y est quand même pas. Eh bien, il suggère à Job que quelque part, il n'a pas dû écouter Dieu. Dieu a dû lui parler d'une manière ou d'une autre, et il n'a pas fait gaffe. Alors du coup, il n'a pas fait gaffe, ben, tous ces malheurs qui t'arrivent, c'est que tu n'as pas écouté Dieu. Alors vas-y, reviens, écoute Dieu. Et puis Job, dans tous ses discours qui sont là, il y a 9 grands discours, puis après quelques incursions, et un discours dernier, enfin une intervention dernière, qui est la clé de voûte du livre, on va voir tout à l'heure. Il y a 9 interventions, je fais grâce des 9 discours, mais en fait dans ces 9 discours qui sont exprimés, eh ben, on a un Job qui souffre et il exprime la souffrance. On a un Job qui ressent tous les sentiments de la palette des émotions humaines. Et c'est génial que ça se trouve dans la Bible. Si vous lisez Job, que vous n'êtes pas très bien, ça va être, le livre de Job, un livre de psychologie pour vous. Vous allez dire, ah mais ce qu'il dit là, c'est ça. Ce qu'il dit là, mais oui, il met des mots sur ce que je ressens. Mais oui, mais oui. Par exemple, eh bien, et ça vous est peut-être déjà arrivé, il souhaite sa mort. Son premier discours, sa première intervention, c'est « j'arrête tout, je bloque tout, maintenant c'est fini, les morts sont plus heureux que moi ». Et il souhaite sa mort, il maudit même le jour de sa naissance. Normalement, quand on pense à sa naissance, « happy birthday to you », on le fête, mais pas là. Il maudit presque le jour, oui, il maudit le jour de sa naissance au chapitre 3. Ensuite, il réfléchit un peu, il revient un peu à lui-même, et peut-être vous l'avez fait, il dit « mais finalement, tous mes malheurs, ça vient d'où ?» Ben, y a Dieu qui est tout en haut. Alors, ben, tous mes malheurs qui viennent, ça vient de Dieu. Il attribue au Seigneur tous ses malheurs. Et peut-être vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait. Les situations malheureuses à l'étroit. Dieu, ça vient de toi. Voilà. C'est l'expression humaine. On pointe un doigt vers le ciel, des fois. Alors, certains parmi nous, ils ont cette grâce de jamais être fâchés devant Dieu, de Dieu. Ne pas être déçu de Dieu. Puis je trouve vraiment que c'est une qualité extraordinaire. Voilà, c'est une maturité qui est belle. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de Job. Tous mes malheurs viennent de Dieu. 6, verset 4. Et puis il estime, il va un peu plus loin, il creuse et il le dit à ses amis, il estime qu'en fait Dieu est en colère après lui. Voilà, la colère de Dieu, elle s'exprime contre moi. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait dans ce livre quelque chose de génial, on voit derrière, l'invisible. Il est génial ce livre, on voit Satan en fait qui va pousser Dieu, entre guillemets, pousser Dieu pour que Job ait des malheurs. Ça peut être une explication de la souffrance ici-bas. Mais en tout cas, Job estime que si Dieu est en colère, il est en colère après lui. Voilà, tous ces malheurs. Et ça rassure, voilà, ben Dieu il est en colère contre moi, j'ai la solution, tous ces malheurs-là, ça vient de Dieu. Point, et ben j'accepte, voilà, on baisse la tête et on accepte comme ça. Beaucoup de gens pensent comme ça aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens, moi, voilà, c'était mes raisonnements à l'époque, les malheurs viennent de Dieu, et puis voilà. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je pense qu'il était à l'origine de tout. Bon, il est excusable, hein, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas l'Évangile encore. Quatrième discours, par exemple, eh bien, cette fois, sa colère, elle se tourne contre les autres. Hein, quand on a des problèmes, c'est les autres. Problème, c'est les autres. Typiquement, les gens qui ont des addictions, la société, c'est m'en veux. J'en veux à la société pas droite, etc. Bon, voilà, on en veut aux autres. Ben Job, il est là-dedans. Et il accuse ses amis, ben vous êtes tous des médecins, des charlatans. Voilà, hop. Tout ce que vous dites, ça ne vaut rien du tout, c'est sans valeur. Il les accuse d'être des médecins et des menteurs. 13, verset 4. C'est bien quand on est fâché qu'on a des gens qui prennent pas ombrage de nos paroles. Hein, ça vous arrive des fois, les couples. Allez, soyons vrais. Ça arrive des fois que sur l'autre on se déverse. ça peut arriver. Les célibataires, trouvez un objet, trouvez un arbre, allez, vous criez votre colère contre sa Job. En tout cas, il accuse ceux qui sont là. Et puis, il y a une souffrance qui est là, que peut-être les personnes qui ont passé des épreuves, il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale, et parfois la souffrance, elle est augmentée quand c'est nos proches qui ne nous comprennent plus. Quand nos proches, au début, ont la compassion et la patience, et puis l'épreuve s'accentue, perdure, c'est le cas de Job, et puis il va dire au chapitre 16, verset 8, « C'est ma maison qui m'accuse. » Voilà, j'en suis arrivé, en fait, ma femme m'accuse, voilà, ceux qui sont encore là m'accusent. Quel poids, hein ? Il y a un poids de solitude. En fait, en reparcourant ce livre de Job, je me suis aperçu qu'il est vraiment actuel, ce livre, parce qu'il parle de solitude. Et on est un monde occidental, en tout cas, en bonne partie, de solitaire. Même dans le monde chrétien, il y a une solitude qui peut être là, un célibat qui dure et qui ne devrait pas, etc. Voilà. Même dans le couple, on peut être seul. Hein. Ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'il n'y a pas de solitude, des fois. Voilà, on est dans un monde solitude. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle et Dieu va rejoindre Job. Alors, il y a cette solitude extrême qui est là que vit Job, combien même ses amis sont là. Peut-être si vous traversez une épreuve, des fois les paroles, même dans l'église, hein, qui sont là, des paroles gentilles, qui ne sont pas avec des mauvaises intentions, mais des paroles qui circulent, qui sont peu profondes et qui tombent un peu dans les paroles des amis de Job. Que Dieu nous en préserve. Amen. Mais voilà, on fait des dégâts par nos bouches. Éternel, mets une garde à ma bouche aussi dans ces choses-là. Voilà, Job exprime. Et puis, oui, là, dans un des derniers discours, en fait, le sommet aussi de sa souffrance s'exprime comme ça. C'est comment ça se fait que les gens méchants, il les appelle les méchants. À l'époque, c'était ceux qui ne suivaient pas Dieu, qui étaient incrédules, on les appelait les méchants. Comment ça se fait que les méchants, ils prospèrent ? Non, mais Seigneur, ça va pas. Regarde un tel, regarde une telle. Leur moralité est zéro, à moins 5. Leurs affaires prospèrent, leur famille prospère, tout réussit, blablabla. Vous voyez ? Et ben, c'est aussi le psaume 73, je crois. C'est le même raisonnement qui est là. Et Job est saisi par ça. Comment ça se fait ? Il n'y a pas de justice dans ce monde. Calimero, hein ? C'est trop injuste. Le dessin animé de mon enfance, vous vous rappelez peut-être. Job exprime toutes les palettes des émotions humaines, mais en soi, il ne pêche pas vraiment. Il exprime son émotion. Parfois, dans le milieu chrétien, on dit « Oh, attention, il faut plutôt parler de la foi, surtout, et que de la foi. » Oui, bien sûr, mais nos expressions, nos sentiments, quelque part, ils doivent des fois s'exprimer. Comment le faire ? Ben voilà, des fois, dans le couple, on se décharge. Ben, parfois, on a besoin de vider son sac. C'est vrai, c'est une réalité. C'est ce que fait Job, en tout cas, pendant... 30 chapitres, à peu près 30 chapitres, il s'exprime dans son émotion. Et Dieu ne va jamais lui reprocher ça. Il ne me semble pas que j'ai lu Dieu qui intervient et qui lui dit « Donc, il y en a marre maintenant tes plaintes. » Dieu va lui reprocher autre chose. Il va lui reprocher autre chose, mais pas ses plaintes. Donc, permis de se plaindre un petit peu. D'accord ? Pas longtemps, hein, pas 40, sinon il y a 40 ans de désert qui nous attend. Non, ce n'est pas vrai. Mais on a le droit de s'exprimer notre émotion. Et des fois, avec mon épouse, elle n'est pas là, je peux le dire. Je dis, écoute, j'ai juste besoin de dire quelque chose. Puis elle aussi, on a juste besoin de dire quelque chose. Et on peut le dire, bien sûr, on peut le dire. Après, il ne faut pas en rester là. Enfin, comme le psalmiste, on est au creux et on se relève. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis Dieu dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Amen. Donc le creux va vite passer avec la présence de Dieu ou des encouragements des frères et sœurs. Voilà. Là, on arrive au dénouement, et après je dirai quelques pensées sur ce personnage de Job. Dieu intervient au chapitre 38, 39 et 40. Il y a Dieu qui parle de sa souveraineté. Vous savez ce qu'il fait ? C'est assez génial. Il n'est pas en train de dire, écoute mon petit Job, ça suffit maintenant, tu t'es assez plaint, laisse-moi parler. Alors Dieu parle, et voilà ce qu'il va faire, c'est assez... plein de pédagogie envers Job, il va lui dire, écoute, regarde à la création, regarde à ce qui a été créé, juste comme ça en passant, c'est toi qui l'as fait ou c'est moi ? Alors tout de suite, Job, ça va lui clouer le bec. Il va s'arrêter et dire, ok, je suis création, je suis créature, il y a un créateur. Voilà, ça va le calmer, hein. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Il va se calmer. Ok, j'arrête tout. Dans les chapitres 38, 39, 40, donc Dieu parle. Et il commence comme ça son intervention. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ? En fait, ce que Dieu reproche à Job, c'est pas tant tout ce qu'il a dit, son émotion, etc., mais il lui reproche en fait de pas reconnaître le Créateur qui est à l'origine de la vie qui est là sur cette terre, de pas connecter avec le Créateur. Job, tu sais beaucoup de choses sur Dieu. Il le dira lui-même, Job, il dira, hein, mon oreille avait entendu parler de toi. Je sais des choses sur toi, Dieu. Mais maintenant, donc le mais, on va le voir un petit peu après, le mais, maintenant mon œil te voit ou t'a vu. Donc Dieu commence comme ça. Dis donc Job, hein, c'est comme si un peintre ou un artiste est là, on est dans sa galerie et il attend les visiteurs. Et puis des visiteurs un peu peut-être arrogants arrivent comme ça. Ils disent « Ouais, c'est bien cette toile ». Puis ils ne savent pas vraiment. Alors l'artiste dit « Mais regardez bien la toile, regardez ce que j'ai voulu dire et comment j'ai pu l'exprimer ». Alors Dieu, dans son discours, c'est assez extraordinaire. Il parle des animaux, il parle de la flore, de la faune, etc. Je ne sais pas si ce n'est pas un traité scientifique, mais il y a des points de science qui sont, ou de biologie, on va dire, qui sont là-dedans. Il parle, par exemple, du gros animal de l'eau, ou du Léviathan. Certaines traductions ont le Léviathan. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Alors, la communauté scientifique croyante à ce jour parle de ce texte, c'est formidable, probablement comme un dinosaure. Probablement un dinosaure était là au temps de Job. Alors voilà, ça remet pas mal de choses en question. C'est intéressant. Voilà, une description. Allez voir les chrétiens spécialistes de ce côté-là. Je trouve ce sujet peut-être passionnant. Mais Dieu intervient donc, il lui dit, mais regarde à la création. Mais ouvre les yeux. Dieu ne va pas dire bon sang ou de bleu. S'il n'est pas jeune voix, pardonnez-moi si je vous choque. Mais ouvre les yeux, Job, regarde. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est toi ou moi? Etc. Et en fait, les paroles d'amour, du Dieu d'amour qui s'exprime. En fait, Dieu est un Dieu d'amour, de tendresse, de compassion. Quand il parle à Job, il parle fermement. Mais on sent un père d'amour qui est là, vont remettre Job à la bonne place sur l'échiquier. Et Job va lui-même conclure, et c'est sa repentance. C'est sa repentance, elle est extraordinaire, c'est dans les versets 1 à 6 du chapitre 42. Du chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi, que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Alors Job, il reprend au verset 3 les premières paroles de Dieu. Dieu a dit « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» Et Job répond à ça, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Voilà, tout petit, je me rends compte, je suis tout petit, même devant la création. « Écoute-moi et je parlerai, a dit Dieu avant. » Je t'interrogerai, tu m'enseigneras, Job. Eh bien, Job dit au verset 5, c'est sa repentance, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Verset 6, « C'est pourquoi je me condamne. Je reconnais mes torts sur la poussière et sur les cendres. » Donc, je m'humilie. Voilà, je suis maintenant petit Job. Je suis petit, petit, petit Job. Et je ne suis pas, bien sûr, j'ai mes épreuves, etc., mais je ne t'ai pas reconnu au-delà, je ne t'ai pas connu même tout court dans ce moment-là. Alors c'est vrai, ce livre nous parle de la souffrance. Il nous parle de l'importance de reconnaître Dieu comme notre Créateur. Je pense que la plupart ici, vous l'avez fait. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. N'hésitez pas à le refaire aussi. Job dit « Tout est possible pour toi ». Il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Il parle face à face avec Dieu. Dieu parle face à face avec Job. J'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent. C'est une belle repentance. Bien sûr, il faut confesser systématiquement, puis les derniers temps, je vous l'ai dit, nos péchés, il y a comme un aspect quelque part légal hein, là derrière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Mais Job, dans sa phrase, elle englobe une repentance sincère. Elle est criante de sincérité, cette phrase. Avant, j'ai entendu parler de toi, et maintenant, je te vois. Voilà, ma repentance, elle est sincère. Je me tourne vers toi. Job reconnaît la vraie grandeur de Dieu. Et désormais, grâce à cette attitude, il peut déclarer vraiment sa confession de foi. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Alors, ce que Job nous apprend, c'est que la souffrance fait partie de la vie humaine, de la vie terrestre. Elle fait partie, elle est là. On n'a pas forcément l'explication. Il y a une tentative d'explication qui est là, où on voit Satan qui cherche à nuire à Job, et il en est à l'origine pour Job. Mais la souffrance fait partie de cette terre-là. Mais Dieu a rencontré Job dans sa souffrance. Et Dieu, en personne, est venu à Job. Et s'il y a une situation de souffrance, passée, présente, à venir, Dieu veut te rencontrer. Jésus lui-même a dit, « Le voleur Satan ne vient que pour voler, tuer, détruire. » Il n'y a pas d'autre but chez Satan que de voler, tuer, détruire. Jésus est venu afin que tu aies la vie en abondance. En abondance. Oui, souffrance, oui, vallée de l'ombre de la mort, oui, mais Dieu se trouve au bout de la vallée, ou plutôt est dans la vallée avec toi. Le livre de Job nous apprend aussi que à l'homme qui s'humilie, à l'homme qui se fait petit devant Dieu, eh bien, il trouve compassion, et Dieu déverse sa compassion. Ensuite, non seulement on apprend dans ce livre que la souffrance est une école, Jésus lui-même est passé par cette école de la souffrance, avant même la croix, il y a eu le jardin, il y a eu la souffrance, il s'est identifié à la nature humaine, il a pleuré lorsque son ami Lazare est décédé par compassion. Il pleure dans la souffrance, il est plein de tendresse et de compassion, il se tient à tes côtés. Et s'il y a souffrance en Jésus-Christ, alors pour toi, il y a un chapitre 42. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai un chapitre 42 devant moi? Et quel est ce chapitre? Quel est ce chapitre? Alors c'est la bénédiction. Oui, le juste peut s'attendre à la bénédiction de l'Éternel. Alors il y a ce verset qui dit « Il y a beaucoup de malheur dans la vie du juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. » Il y a ce verset des psaumes qui dit aussi « Le soir arrivent les pleurs, de la souffrance, de la douleur. » On peut être dans un soir de notre vie, mais au matin, il y a ta jubilation. Alors si tu regardes ton voisin, j'aimerais que tu lui dises « Oh, ce soir ou demain, il y a un chapitre 42 pour toi. » Le chapitre 42, c'est que Job devient intercesseur pour ses amis. Il a connecté avec Dieu et il devient intercesseur. Ça serait chouette qu'on puisse dire aux personnes qui ne sont pas encore vraiment croyantes autour de nous, « Tu sais, je peux prier Dieu pour toi et tu vas être béni, tu risques d'être béni, tu vas être richement béni. » C'est ce qui se passe pour les vrais intercesseurs. Abraham est prophète, il prie. Celui qui avait failli prendre sa femme, le roi, Abimélec. Dieu dit à Abimélec, Abraham va prier pour toi. Génial, hein? Ce serait chouette que Dieu dise à nos amis qui ne sont pas chrétiens, va voir ton ami, va prier pour toi. On va aller voir. Job est dans cette intimité avec Dieu, au point que Dieu lui fait maintenant confiance pour prier pour que ses amis ne soient pas maudits. Ou en tout cas demeurent dans leur ignorance. Job devient intercesseur, et vous savez, ce chapitre finit tellement bien. Job, il y a un chapitre 42 aussi pour toi. C'est que la bénédiction, et on va se régaler de cette bénédiction qui est donnée à Job. Verset 12, « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. » Il y a un chapitre 42 pour toi. « Et il posséda 14 000 brebis. » Voyons donc, comme disent les Québécois, 6000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, il y a un verset pour les sœurs, la deuxième Kétia et la troisième Keren à Pouk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut cela, après cela 140 ans. Il vit ses fils et les descendants de ses fils à la quatrième génération. Puis il mourut, âgé et rassasié de jours. C'est la phrase qui clôt les vies bien remplies qui ont marché par la foi. Il y a pour toi un chapitre 42. Tu es à l'aube d'un chapitre 42. Devant toi, il n'y a pas mieux venant de Dieu qu'un chapitre 42 à quelque part pour toi. Est-ce que tu veux le saisir, ce chapitre 40, ouais, on va dire 43 parce que 42 déjà écrit, mais 43. Il y a quelque chose de bon pour toi devant le Seigneur. Et Jacques écrit, Jacques chapitre 5, verset 11, à propos de Job. Jacques 5, 11. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent, vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, le chapitre 42, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Waouh, on a vu, Job nous a précédés. Job nous a précédés. Il est peut-être au ciel et il accueille ceux qui montent au ciel et il leur dit, alors, c'était quoi ton chapitre 42 à toi ? C'était quoi ? Il va falloir qu'on ait un chapitre là-haut à lui dire, hein ? Lui dire que la bénédiction de l'Éternel n'était pas épuisée pour nous aussi en 2020. Pour moi, le chapitre 42, il est en train de s'écrire. Je vous ai raconté, vous avez reçu une lettre de ma part il y a quelques semaines en arrière qui vous apprenait la maladie qui est venue sur moi, ce nom de spondylarthrite axiale ou rhumatismale, enfin une maladie rhumatismale. J'ai demandé le 7 juin ou le 6 juin, je ne sais plus exactement, j'ai demandé la prière avec onction d'huile. Donc au mois de février, j'étais diagnostiqué avec cette maladie dite auto-immune. Et les maladies dites auto-immunes par la médecine ne peuvent pas guérir, ne peuvent pas être dites guérissables. Je dis ça avec mes mots. Vous avez prié pour moi avec l'onction d'huile ce jour-là. On était masqués, vous rappelez. Manu a introduit ce moment-là en lisant Jacques 5 et Anne a prié en notre nom à tous. Vous l'avez fait aussi également. Depuis plusieurs mois, j'ai régulièrement des prises de sang et des analyses. Et donc, au mois de février, j'avais un taux qu'on appelle CRP de 60 mg par litre. Et ce taux de 60 révèle donc une maladie rhumatismale. Nous sommes ceux qui sont sans maladie. Normalement, on est censé être à 5, maxi. Moi, j'étais à 60, donc 12 fois plus. Le médecin m'a dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, le spécialiste a fait ses analyses à ce moment-là et a déduit, donc, a diagnostiqué spondylarthrite. Bien sûr, entre-temps, vous avez prié, quand j'ai partagé à certains ces douleurs, qui étaient là depuis 2-3 ans, je peux dire, et qui allaient crescendo. Lors de la dernière analyse, le taux que j'ai fait, la dernière analyse qui était le 17 juin, mon taux de CRP est descendu à 5. Donc je suis au maximum admissible. À ma question au médecin spécialiste, je lui ai dit, est-ce que le traitement, j'ai commencé un traitement par injection depuis, je lui ai dit, est-ce que c'est le traitement qui agit ? Je sens que dans mon corps, quelque chose s'est passé. Alors il m'a dit, quelque chose s'est passé, les analyses confirment ce que vous sentez, mais ça ne peut pas être le traitement. Le traitement agit seulement à partir de 3 semaines, 3 ou 4 semaines. Donc j'attends les autres analyses sanguines, que la médecine me confirme que je suis guéri. Elle ne va pas dire que je suis guéri, mais quelque chose s'est passé dans mon corps quand vous avez prié. Je ne l'ai pas ressenti, mais je l'ai ressenti trois ou quatre jours après. Je ne l'ai pas dit, mais je garde encore. Donc j'attends que la médecine me confirme. Je ne crie pas à tue-tête, le Seigneur m'a guéri, mais j'attends que la médecine me confirme. Et je peux dire aujourd'hui que je commence à reprendre vie dans mon corps. J'ai l'impression parfois d'être comme un boxeur qui a été étourdi, qui est groggy, il a pris des coups dans mon corps et je suis en phase comme ça de convalescence. Mais j'affirme dans la paix, dans la foi, sans me forcer, je pense que Dieu a mis sa main par rapport à cette maladie. Je vis, je crois, une grâce. Je vis encore une grâce. J'ai parfois encore des douleurs, j'ai parfois encore des coups de fatigue qui sont là, mais bien moindres. Qu'à ce moment-là. Cette spondylarthrite, il y a à peu près 80 000 personnes en Suisse qui sont atteintes et c'est que des jeunes qui l'ont, enfin la plupart c'est des jeunes, c'est des maladies qui touchent les jeunes. Moi, elle s'est déclarée vers 50 ans. J'ai vécu une grâce, je pense, pendant tous ces mois où je n'avais pas ces douleurs, mais elles ont été déclarées il y a à peu près 3 ans. Alors ce soir, je suis là pour bénir Dieu. Je pense que mon chapitre 42 est en train de s'écrire. Je suis paisible et confiant. Vous imaginez ou pas ce que peut être le fait de, là je suis dans la phase test où le médecin m'a dit vous arrêtez pendant une semaine de prendre des médicaments. Je prenais les anti-inflammatoires. Vous arrêtez et vous faites un test. Le test, pour moi, il est concluant. Le plaisir de se coucher au lit en disant « Tiens, j'ai pas mal. » Le plaisir de s'allonger et de dire « Ah, je me tords pas dans tous les sens pour m'allonger. » Alors, je bénis le Seigneur. Il est Adonai Rapha, celui qui peut guérir, celui qui guérit. Sa main est puissante. Et je vous partage, vous êtes les premiers à recevoir ce témoignage, à part ma famille et quelques proches. Encore une fois, j'ai l'impression des fois d'être groggy. J'ai aussi un peu parfois l'impression d'être ce lépreux qui revient vers Jésus, qui se met à genoux, qui dit « Seigneur, je crois que tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. » Voilà. Et j'attends la médecine qu'elle va confirmer. Si vous êtes malade, demandez à la médecine qu'elle vous confirme. Et c'est tellement mieux quand c'est comme ça. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la médecine qui l'a dit. Je suis guéri et voilà mes analyses, je les garde. Et je vois la courbe, c'est intéressant, de ce taux CRP en février 60. Voilà, après il y a eu... voilà, ça a fait en fait comme ça, puis tac, comme ça. Voilà, le rhumatologue m'a attesté, mais ça ne peut pas être le traitement. Donc voilà, gloire à Dieu. Mais je fais le traitement, ben, comme ça, ça bénit les médecins. Je suis en train de bénir les médecins, financièrement parlant, et toute l'industrie pharmaceutique. Non, mais je me soumets à la médecine par rapport à ça. C'est un choix personnel que j'ai fait. Voilà, je bénis le Seigneur. C'est mon chapitre 42. Quel est ton chapitre 42 ? Dans quel domaine les premiers versets vont-ils s'écrire pour toi ? Je vous pose quelque chose ce soir, qu'on se mette simplement devant le Seigneur, de grâce, de voir Job. Oui, il a souffert. Il a exprimé sa plainte et peut-être tu es dans la phase où tu dois exprimer ta plainte devant le Seigneur. Peut-être qu'il faut passer par là aussi. Alors à qui il faut le dire ? Bien que tu puisses déjà le dire au Seigneur. Je ne crois pas qu'il t'en voudra, il ne me semble pas. En tout cas, Job n'a pas de reproche par rapport à sa plainte et ses souffrances. Il en a sur un autre domaine. Seigneur, il y a cette souffrance, on peut la lui apporter, ou ses souffrances, on peut les lui apporter. Dieu est un Dieu bon. Vous savez, Dieu ne va pas se fâcher de ce qu'on va lui dire, de notre souffrance. Lui-même a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit la parole de Dieu. Alors on peut les lui confier, ses souffrances. On peut lui dire, là j'en peux plus. On peut lui dire, le chemin, les cailloux sont trop durs là, à escalader, c'est trop dur pour moi, Seigneur. Et je proclame sur vous la paix du Seigneur, la paix que j'ai pu recevoir, qu'elle vienne à vous, qu'elle soit à vous. Si j'ai pu recevoir du Seigneur quelque chose, recevez-la, recevez cette paix, recevez cette guérison, recevez l'apaisement aussi lorsqu'il y a colère. Recevez l'apaisement face aux souffrances, face aux injustices. C'était vraiment injuste pour Job. Souffrance gratuite, on pourrait dire. Non méritée, certainement, absolument. Mais apaisement et grâce divine qui était là. Apaisement et grâce divine. En préparant ce message, il y a une phrase qui s'est imposée à moi, je vous l'ai dit, peut-être qu'elle concerne quelqu'un. Alors, j'ai reçu les mots, vraiment mot pour mot, ça. Une parole de grâce est prononcée sur ta vie. Voilà, j'ai reçu ces mots. Une parole de grâce est prononcée sur ta vie.